Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro, Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale revient sur la traite transatlantique des esclaves avec Aïssa Maïga, actrice française d'origine sénégalaise. Présente à l'écran dans deux des films projetés à l'ONU dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, l'actrice Aïssa Maïga revient sur l'importance d'enseigner l'histoire de l'esclavage, mais aussi sur la représentation de l'esclavage au cinéma, la responsabilité politique des acteurs et l'avenir du cinéma africain. Bonjour Aïssa Maïga, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Donc on vous a découvert, en tout cas à l'ONU, récemment à l'écran, dans deux films qui étaient projetés dans le cadre d'un festival intitulé Remember Slavery, qui était donc organisé ici au siège pour commémorer la traite transatlantique des esclaves. Donc il y avait le film Tay, d'une balle, d'Alain Gomis, et aussi Toussaint Louverture, du réalisateur Philippe Nyang. Toussaint Louverture qui était donc le père fondateur d'Haïti, la première république anti-esclavagiste au monde. Et dans ce film, vous jouiez donc le rôle de son épouse, Suzanne Louverture. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous vous êtes préparée pour ce rôle ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un projet qui a été porté par un couple de producteurs dont je tiens vraiment à saluer le travail, parce qu'il faut savoir que Toussaint Louverture, c'est une figure très importante au sein de la diaspora noire, que ce soit en Afrique ou aux Amériques, et même en Europe. Et plusieurs projets avaient essayé d'être montés. Il y en avait un notamment par Danny Glover, un autre, si je ne me trompe pas, par Eusanne Palsy. Et ça a été très difficile de trouver les financements pour monter le projet. Et France Zobda et Jean-Loup Montieu ont réussi ce pari qui était impossible. Je pense que c'est difficile de se rendre compte aujourd'hui de la lutte que ça a été pour réussir à sensibiliser les financiers français et notamment une chaîne de télévision publique française au parcours de Toussaint Louverture et à la nécessité impérieuse qu'il y avait de réveiller cette mémoire endormie qui symbolise tout un pan du lien tragique entre les puissances occidentales et Haïti. Alors tout ça pour dire que c'est pas un projet dans lequel on entre comme dans n'importe quel projet. Il y a des films comme ça qui ont comme une espèce de mission qu'ils portent avec eux, une mission d'ordre un petit peu supérieur, qui fait que tous les comédiens, moi comprise, nous sommes engagés dans un travail au niveau de nos personnages, mais avec la conscience très aiguë du symbole qu'on allait chacun incarner et de la rareté de ce genre de projet. Alors il faut savoir que pour le personnage de Suzanne, je disposais de, je pourrais dire, de rien. Les traces historiques sont extrêmement minces, bah, peut-être parce que c'est une femme, c'est une femme d'eux. On sait simplement que c'était une esclave émancipée qui avait racheté sa liberté et qui avait épousé donc un homme libre aussi qui était Toussaint Louverture et qu'elle a vécu auprès de lui des années de lutte dans l'ombre, puisque c'était encore une fois une femme, elle n'a pas pris les armes, mais je pense qu'elle a dû, en même temps qu'avoir très, très peur de façon quotidienne, adhérer au combat unique que son homme, son Toussaint Louverture, était en train de mener. Et puis, comme je disposais de très peu d'éléments historiques, comme je vous le disais, il a vraiment fallu que je construise le personnage quasiment comme un personnage de fiction, comme je le fais habituellement, à partir de ce qui existe dans le scénario et à partir d'un cheminement de déduction pour essayer de construire évidemment tout son passé, son background, toute son identité.
Toussaint Louverture était vraiment un personnage hors du commun. Comment expliquez-vous qu'il y a eu tant de résistance rencontrée pour financer et pour faire vivre ce projet ?
D'abord, je pense qu'il y a un vrai problème d'ignorance. Moi, je connaissais un petit peu l'histoire de Toussaint Louverture du fait des lectures que j'ai faites d'un point de vue tout à fait personnel, dans un besoin de comprendre un petit peu l'histoire du monde noir. Mais je me rends compte que dans mon entourage, même chez des gens très ouverts, instruits, les gens ne savaient pas qui était Toussaint Louverture. Donc je pense que la résistance, elle est d'abord là. On ne connaît pas, donc si on ne connaît pas, c'est que peut-être ça n'a pas vraiment de valeur. Donc pourquoi se battre ? Pourquoi mettre de l'argent dans des projets qui finalement ne vont intéresser personne ? En ce qui concerne la France, le pays dont je vis, mon pays, c'est un vrai problème parce que c'est une ignorance de sa propre histoire. C'est pas l'ignorance de de l'histoire des Noirs, l'histoire de l'esclavagisme. C'est l'ignorance de la propre histoire de la France, dont une immense partie de la richesse s'est bâtie sur l'exploitation des ressources de Saint-Domingue, de la perle des Antilles, qui est devenue plus tard Haïti. Donc il y a une espèce d'amnésie comme ça, qui n'est absolument pas propice à une démarche de mémoire. Après, une fois qu'on a dépassé le stade de l'ignorance, il y a évidemment un vrai travail de mémoire, de construction de cette mémoire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à construire, qui est à penser en termes d'éducation, d'accès à la culture et de sensibilisation année après année autour de thématiques qui, encore aujourd'hui, ont un impact très fort sur la construction des mentalités et de fait sur les liens à travers différents groupes dans nos sociétés.
Quelle peut être la valeur ajoutée du cinéma pour sensibiliser justement à l'histoire de l'esclavage en particulier ?
Alors le cinéma, c'est un raccourci formidable. C'est une manière extrêmement condensée, synthétique de dresser le portrait d'une époque à travers des personnages. Et puis en plus, cette année, on a eu la chance d'avoir un film magnifique qui est 12 Years a Slave, un autre film qui est en train de sortir, je crois que je n'ai pas encore eu la chance de voir, qui s'appelle Belle. Il y a eu Toussaint l'ouverture pour la télévision française il y a 3 ans maintenant, je crois. Il commence à y avoir des films qui apportent un matériau nouveau, ou en tout cas renouvelé sur les questions de l'esclavage, et qui permettent aussi bien aux gens comme moi qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là, mais également à des gens qui n'y connaissent absolument rien et qui ne demande qu'à voir en quelque sorte, d'avoir accès à une somme d'images, une somme de récits, une somme d'émotions qui permettent de saisir la contemporanéité. Ce ne sont pas des histoires qui appartiennent uniquement au passé. On est encore en train, il y a encore des choses qui se jouent à partir de cet héritage-là. Il y a encore surtout des défis pour demain, des questions qui sont vraiment à dépasser. Vous savez, en France, il y a quelques jours une phrase absolument dégueulasse et terrible de Thierry Mariani, qui est un homme politique de l'UMP, de la droite française, qui, après l'enlèvement terrible, tragique, des 250 lycéennes nigérianes par Boko Haram, qui a dit, eh bien, avec la question de cet enlèvement et de la menace de réduire ses filles en esclavage, l'Afrique ne pourra pas dire qu'elle n'a aucune responsabilité historique dans la traite des Noirs. Pour moi, ça raconte à la fois l'ignorance crasse, l'ignorance mais la plus lamentable, puisqu'elle est faite aussi d'orgueil, qui consiste à être dans des amalgames entre ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, un crime de masse, organisé, industrialisé, et puis un autre crime, mais qui a une échelle extrêmement réduite et avec laquelle on ne peut pas mettre un signe égal entre le drame historique qui s'est déroulé pendant 400 ans entre le continent africain et les Amériques et ce qui se passe aujourd'hui à Boko Haram. Donc il y a vraiment un réel travail à faire dans toutes les couches sociales, dans toutes les catégories.
De votre point de vue, le cinéma ou les acteurs, les réalisateurs ont-ils une responsabilité politique ?
Oui et non. Je dirais que pour moi, pour les artistes, la valeur première, c'est la liberté. Et chaque artiste doit pouvoir se définir de façon absolument libre dans sa démarche artistique. Pour certains, cette responsabilité passe par le fait d'utiliser son art comme une espèce de tribune pour effectuer des sortes de plaidoyer auprès du monde, de la société. Et pour d'autres, ça ne passe absolument pas par ça. Donc je m'interdis d'avoir un discours global là-dessus. En ce qui me concerne, je pense que j'ai une responsabilité pour différentes raisons. Parce que si on doit parler de l'esclavage, les défis sont encore énormes. Et si je choisis de m'intégrer dans une histoire, dans un film, une fiction qui raconte ce qu'est l'esclavage, ce film risque de beaucoup compter parce qu'il y a un désert, un vide artistique, historique autour de ces questions-là. Donc moi, c'est quelque chose que je ne prends absolument pas à la légère et j'essaie de m'inscrire toujours dans des projets qui correspondent aux valeurs que j'ai envie de défendre.
Vous mentionnez un vide historique dans la représentation de l'esclavage au cinéma. Il y a quand même eu quelques films. Est-ce que vous avez noté une évolution dans la représentation de cette histoire à l'écran ?
Le premier problème, il a à voir avec la rareté des projets. 400 ans de traite transatlantique d'esclavage et peut-être moins d'une dizaine de films de cinéma qui traite de cette histoire. Je pense que pour que certains aspects puissent être vraiment démocratisés, vulgarisés, dans le sens le plus noble du terme, il faut que les projets soient plus nombreux, que les points de vue, c'est pas une question de nombre, hein, que les points de vue soient multiples sur ces mêmes questions-là, qu'on puisse interroger les différentes époques de l'esclavage. On ne parle pas de la même chose quand on parle des premiers Portugais qui sont arrivés sur les côtes ouest africaines que quand on parle du 19e siècle, lorsqu'il y avait encore de la piraterie pour vendre des esclaves aux États-Unis. Ça n'est pas la même histoire. On ne peut pas raconter toute l'histoire de l'esclavage à travers un film. Je pense qu'il faudrait plusieurs projets de différentes nationalités, parce que l'histoire de l'esclavage n'est pas la même selon qu'elle se situe au Brésil ou dans les Caraïbes françaises ou sur le continent des États-Unis. Lord, I'll never turn back no more. I
found in him. Pour en rebondir sur cette idée de multiplicité de points de vue, donc pendant le festival qui était organisé à CIE à l'ONU, vous étiez donc dans un deuxième film, Tay, d'Alain Gomis. Justement, comment est-ce que ce film-là apporte un autre point de vue, parce qu'il se situe dans le monde à l'heure actuelle?
Alors Tay, qui veut dire aujourd'hui, pour le coup c'est vraiment un film qui se passe aujourd'hui, de nos jours. C'est un film d'Alain Gomis, qui est un grand metteur en scène, un très grand pour moi. C'était là son troisième long métrage. Et il raconte le retour d'un enfant du pays qui a grandi ailleurs, qui est incarné par Saul Williams et qui revient au Sénégal. Il ne sait pas très bien pourquoi au début, puis on comprend très vite, de façon très subtile, qu'il va être sacrifié. Et c'est un film qui, pour moi, est très moderne et qui traite du retour d'une façon que moi, j'avais jamais vue au cinéma. Et c'est, je pense, une belle chose que ce film-là ait pu côtoyer un film comme 12 Years a Slave dans votre festival, puisque là encore, il est question de multiplicité de points de vue sur des aspects du monde noir. Et je pense qu'il y a une vraie urgence à ce que, que cette chose-là grandisse.
Et justement, pendant votre séjour à New York, vous allez participer au African Film Festival, au Festival du cinéma africain qui a lieu ici tous les ans. Quels sont les principaux défis que rencontre le cinéma africain pour mieux se faire connaître à la fois aux États-Unis et en Europe? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils jouissent d'une plus grande visibilité?
Ce qu'on pourrait faire, je pense que les choses sont en train de se faire. Il me semble, je suis loin d'être une spécialiste de la question, mais il me semble qu'il y a vraiment une nouvelle génération de metteurs en scène, mais aussi de producteurs, peut-être de distributeurs africains, qui sont en train de réinventer le système de production des films d'un bout à l'autre de la chaîne de fabrication. Évidemment, l'exemple le plus emblématique de ça, c'est l'industrie du Nollywood. Mais je pense qu'au-delà de ça, il va y avoir de plus en plus des chemins qui vont se croiser entre les différentes rives de l'Atlantique, avec une génération d'Africains qui ont grandi aux États-Unis et qui retournent avec ce brassage de cultures vers le continent, des Africains qui ont accès avec les nouvelles technologies à toutes les cultures du monde. Et puis, il y a l'intérêt croissant d'étrangers envers le continent africain, qui a un taux de croissance qui est absolument incroyable dans certains endroits en tout cas, avec une classe moyenne qui est en train de grandir et avec des besoins nouveaux en termes de cinéma, qui fait que certains capitaux, je pense, sont en train d'arriver et vont permettre, je le souhaite, la naissance d'une industrie un peu plus riche en termes de volume et un peu plus mobile en termes de circulation des œuvres dans le monde et pas simplement dans les festivals, même si les festivals sont importants. Que ces films-là pourront peut-être avoir une vie commerciale en dehors du continent.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Aïssa Maïga.
Et c'est ainsi que se referme cette édition du magazine Escale. Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Isabelle Dupuis avec la collaboration de Rebecca Moudio. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.